Bonjour et bienvenue dans la radio de la Fondation Queerasio. Nous sommes dans la grande émission, je suis Valériane Boulin et aujourd'hui j'ai l'immense chance d'ailleurs et honneur d'accueillir Adrien Figuilla-Letort. Bienvenue Adrien.
Merci, bonjour Valériane, bonjour Queerasio.
Pour te présenter rapidement Adrien, Adrien Figuilla-Letort, tu es devenu un acteur clé de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Après plus de 20 ans de carrière dans les médias et la communication, notamment au sein du groupe JC2CO, où tu sièges au comité de direction commerce et développement, tu as cofondé AFL Diversity, dont la mission est de transformer les organisations en véritable espace inclusif. Tu es également président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'Autre Cercle et membre du conseil d'administration national, l'Autre Cercle, association de référence pour l'inclusion LGBTQIA+ en entreprise. Ta conviction, votre conviction, j'ai envie de dire, la diversité n'est pas un nice to have, mais un levier stratégique pour les personnes et pour la performance collective. Avec ton mari Fabien, vous co-signez le livre « Diversité et inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre » paru cette année, qui est un véritable manifeste à la fois engagé et pragmatique. Alors Adrien, tu viens d'un monde exigeant où la croissance, le chiffre, la performance étaient des repères. Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a poussé et vous a poussé tous les deux à centrer votre action sur la diversité et l'inclusion en fondant AFL Diversity?
Alors, c'est vrai qu'on vient du monde de l'entreprise. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait notre force aujourd'hui et c'est ce qui plaît aux clients qu'on accompagne, c'est le fait qu'on les comprenne. On vient du monde de l'entreprise. On a occupé Fabien au sein de l'entreprise Philips en France et à l'international. Et moi, chez JC2CO, pendant 15 ans, on a occupé des fonctions de dirigeant dans ces sociétés avec, tu le disais, Valériane, des objectifs, de la rentabilité, de la marge à générer, des équipes à piloter, à recruter, à faire évoluer. Et c'est certainement, effectivement, ce passage-là et cette expérience-là qui fait qu'aujourd'hui, on a une vision aussi précise et une capacité à se projeter dans les enjeux de nos clients. Moi, j'ai tout appris chez JC2CO. Honnêtement, tout ce que je fais aujourd'hui, moi, je n'ai pas fait de grande école de commerce. J'ai fait un BTS par alternance dans une radio parce que j'étais passionné de radio. Et puis, à 20 ans, j'ai eu la chance d'entrer chez Énergie, qui, pour le coup, eux, ne recrutaient pas en regardant les écoles. Mais finalement, c'est l'école de la vie, moi, étant passionné de radio, qui m'a permis de rejoindre ce grand groupe média. Et j'ai passé 5 ans chez Énergie. Et c'est là que j'ai pu faire les rencontres qui m'ont permis ensuite d'évoluer chez JC2CO. JC2CO qui, pour le coup, là, était une entreprise qui recrutait, comme beaucoup d'entreprises, sur le diplôme et qui faisait, le premier tri avec les écoles de commerce. Moi, j'ai eu cette chance de passer, entre guillemets, entre les mailles du filet. Et pour le coup, j'ai tout appris, effectivement, pendant les 15 ans que j'ai passé chez JC2CO. Alors, ce qui fait que j'ai opéré, et Fabien en même temps, ce grand virage entre JC2CO et l'entreprise à impact qui est AFL Diversity qu'on a créé il y a 5 ans, je dirais que c'est un mix de plusieurs choses. Le passage à 40 ans, on parle souvent de crise de la quarantaine, peut-être que ça en fait partie. Le fait aussi que ça va faire 20 ans avec Fabien qu'on partage notre vie ensemble, donc une certaine maturité aussi dans notre relation. Le fait qu'on ait aussi construit notre famille, on s'est paxé au début puisqu'on n'avait pas le droit de se marier, ensuite on s'est marié, puis on a eu la chance de pouvoir fonder notre famille. On a une fille qui s'appelle Jeanne qui est née d'une GPA aux États-Unis, qui a maintenant 9 ans et demi. Et puis il y a eu le Covid, le confinement, qui, comme tout le monde, nous a permis de nous poser des questions, de remettre en perspective un certain nombre de choses, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on travaille. Et puis, en parallèle de ça, Fabien, qui a été arrêté pendant un an avec un grave souci de santé au cœur. Et ça aussi, c'est ce genre d'épreuve de la vie qui vous fait un peu remettre tout ça en perspective. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu un mélange de tout ça. Arrivé à 40 ans, qui nous a fait nous dire qu'est-ce qu'on veut pour demain, qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie et notre temps. On l'avait donné pendant 15 ans à des grandes entreprises internationales et l'engagement qu'on avait dans des associations en tant que bénévole à côté nous a permis justement de découvrir une autre facette de ce à quoi pouvait servir notre temps, notre énergie. Et c'est pour ça qu'on a créé Eiffel Diversity.
C'est hyper joli parce qu'il y a une véritable histoire professionnelle et tout à coup le personnel vient reprendre ses droits en quelque sorte. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit beaucoup dans un contexte où on parle de perte de sens, d'authenticité, d'être soi. Et que finalement, être soi au travail, pour beaucoup, ça reste un véritable parcours semé d'embûches, d'obstacles, d'invisibilité aussi, bien souvent. Et que, tu le rappelais, hein, vous êtes très investi dans l'associatif, notamment dans l'autre cercle, où tu as pris des grosses responsabilités dedans. Notre cercle, je rappelle, ça fait plus de 20 ans que ça œuvre pour un monde professionnel plus inclusif sur la partie LGBTQIA+.
Bientôt 30 ans.
30 ans ? Waouh !
Bientôt 30 ans, même, ouais.
Bientôt 30 ans, et quand on voit tout le chemin qui reste à parcourir, tous les allers-retours, tous les retours en arrière, bien souvent aussi, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui, selon toi, selon ce que tu vois du coup dans toutes ces expériences, freine encore la pleine inclusion dans les entreprises françaises ?
Déjà, il faut, je pense, accepter que on n'est pas parfait et qu'on n'est pas inclusif par nature. L'être humain n'est pas inclusif par nature. C'est tout le contraire. Par nature, nos biais inconscients, cognitifs, font que on va s'éloigner de ceux qui ne nous ressemblent pas. On va essayer de se regrouper avec ceux qui nous ressemblent, qui ont la même couleur de peau, qui ont la même éducation, qui ont les mêmes croyances, qui ont fait les mêmes écoles, etc. Et ça, en fait, depuis la nuit des temps. On chasse ceux qui ne nous ressemblent pas. Ce sont des dangers et il faut s'en éloigner. Donc, réussir à se rendre compte que on n'est pas inclusif par nature et que ça va demander un effort que de pouvoir être inclusif, c'est, je dirais, déjà le principal pas à franchir. Et il n'est pas évident, parce que, encore une fois, les biais font que on pense toutes et tous que non, mais c'est bon, on n'a pas de problème, et puis on est en 2025, 2026, et puis quand même, on travaille dans la pub, on travaille dans les médias, et puis quand même, on est jeune, donc les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc tous ces stéréotypes qui font que on a l'impression que ça va se faire naturellement, alors que c'est tout l'inverse. Il faut agir pour justement réussir à mettre en place des choses, des plans d'action, des actions correctives, je dirais, qui permettent justement de donner les mêmes chances à chacune et chacun et que chacune et chacun puisse se sentir pleinement elle-même, pleinement lui-même, là où il est, quel que soit son genre, son orientation affective, sexuelle, sentimentale, son handicap, sa couleur de cheveux, sa couleur de peau, etc., etc.
Alors du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus. J'entends complètement sur la partie bien-être au travail, se sentir soi. Sur ce côté, je me lève le matin et j'ai le sourire en fait en allant bosser. Je parlais tout à l'heure de chiffres de performance, on appelle ça des KPIs en entreprise. Qu'est-ce que justement ça donne ce côté-là d'être soi au travail ?
Alors certaines enquêtes, pas françaises, mais je crois que c'est au Canada, qui ont évalué à près de 30% la perte de performance individuelle et donc pour l'entreprise d'un collaborateur ou une collaboratrice qui n'a pas fait son coming out et donc qui est dans le placard et donc qui a une partie de son cerveau, une partie de son attention, une partie de son intelligence finalement qui est dédiée non pas à la mission pour laquelle elle est payée en entreprise mais à cacher en fait qui elle est, qui il est, la personne avec qui il est, et du coup d'essayer d'éviter tous ces moments où il ou elle va pouvoir être mis en difficulté parce que potentiellement devoir mentir ou peut-être se tromper en disant le pronom ou le prénom de sa ou son partenaire. Donc oui, c'est un véritable enjeu de performance que de pouvoir être soi-même en entreprise. En fait, on ne se rend pas compte parce que la plupart des personnes nous disent « oui, mais non, mais ça relève de la vie privée, ça relève de l'intime ». Et ce à quoi je réponds, mais lorsque Jean-Michel, hétéro, nous parle de son week-end avec sa femme, nous parle de l'inscription de son petit dernier au club de foot, nous parle de son projet de vacances, nous parle de... En fait, il en parle à ses collègues au travail et il parle de sa vie privée, finalement. Ce qu'on demande, c'est simplement qu'une personne qui vit avec une personne de même sexe puisse faire la même chose. On est tous d'accord pour dire que la sexualité, c'est de l'ordre de l'intime et ça reste à la maison et ça n'a pas sa place en entreprise. Par contre, lorsqu'on parle de son partenaire, de sa partenaire, des projets, de projets d'enfants, de vacances, ben on parle juste de la vie. Et ce qu'on dit, c'est juste qu'une personne qui est gay, bisexuelle, lesbienne, doit pouvoir, au même titre qu'une personne hétérosexuelle parle de son week-end, une personne lesbienne peut également parler de son week-end avec sa femme. Aujourd'hui, les chiffres nous montrent qu'on a un salarié sur deux qui n'est pas à l'aise pour en parler en entreprise et pour faire son coming out. Et malheureusement, la tendance ne va pas en s'améliorant. On prévoit même qu'elle tende à se dégrader dans les années à venir compte tenu du contexte actuel.
Waouh, c'est effectivement pas très très rassurant. On voit sur certains pôles de diversité, j'en parle parce que nous sommes en novembre, donc pas très très loin de la SEPH. On a la semaine pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il y a le mois des fiertés en juin. Donc en fait, on est à pile 6 mois. Il y a cette diversité où parfois on fait un peu le cumul des mandats. On peut être et neuroatypique et lesbienne ou gay ou etc. Et on a tendance à faire des silos. Et en ce moment, il y a beaucoup de communication autour de la SEPH. En juin, il y a beaucoup de communication autour du mois des fiertés. Et j'ai entendu plusieurs fois dire que la diversité, ça ne devait pas être un sujet de communication, mais un sujet de transformation. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises aujourd'hui, de ton point de vue ou ce que tu perçois ?
Alors, je pense qu'on a déjà passé une première étape qui est qu'il y a quelques années, c'était que de la com. Ça veut dire que ça suffisait de mettre sur son site internet qu'on était inclusif et que tout le monde était bienvenu, venez comme vous êtes. On a passé cette étape-là dans... la plupart des entreprises où maintenant ils sont passés à l'action. Ça veut dire ça ne suffit plus de dire, il faut faire. Et c'est le plus difficile finalement. Et c'est ce qui prend aussi le plus de temps. Donc on est dans cette phase-là, c'est du temps long et nous on est favorable à la stratégie des petits pas et on pense qu'en particulier sur le sujet par exemple de l'inclusion des personnes LGBTQIA+, faut y aller doucement parce que il faut permettre à chacune et chacun d'avancer en fait sur ce chemin qui mène à l'inclusion et que ça se fait pas en un claquement de doigts ou en une conférence. Parfois, on a des croyances, une éducation qui fait que il y a des choses tellement ancrées que ça se fait pas si facilement. Et souvent on dit qu'il faut être confortable d'être inconfortable avec ces sujets. Parce que oui, ça demande en fait d'avancer sur ce chemin. Et l'idée, c'est voilà, d'y aller doucement, mais d'y aller, d'avancer. On ne peut pas entendre que c'est un non-sujet. Moi, souvent, j'ai des entreprises qui me disent « Non, mais chez nous, c'est un non-sujet. » C'est un non-sujet veut dire « c'est tabou. On ne veut pas en parler, on a un problème avec ça. » Donc, il faut en parler. Et pour en parler, effectivement, il faut communiquer. Il faut aussi que le sujet soit incarné au plus haut niveau de l'entreprise. Ce n'est pas l'inclusion et la diversité ne sont pas des sujets qui doivent s'arrêter à la DRH ou à la direction RSE. Ce sont des sujets qui doivent être portés au plus haut niveau de l'entreprise par les dirigeantes, par les dirigeants. Ce n'est que comme cela que la transformation opérera. Si le sujet reste bloqué à un niveau intermédiaire de l'organisation, ça ne prendra pas. On l'observe, nous, depuis 5 ans, tous les jours. On voit ce qui fonctionne. L'ingrédient magique, si je puis dire, c'est celui-là. C'est que le sujet soit porté au plus haut niveau de l'entreprise et que les dirigeantes et dirigeants prennent la parole.
Ça me fait penser là-dessus. Je rappelle qu'effectivement, ça devait être porté par les dirigeants. D'après toi, de ce que vous voyez, ou de ce que vous pouvez observer, une personne LGBT qui aurait envie de pouvoir raconter son week-end à la machine à café le lundi matin, qui aurait envie de pouvoir dire avec mon mari plutôt que en s'inventant une femme, comment est-ce qu'il peut se sentir vraiment libre et savoir qu'il est dans une safe place ou pas ?
Là, je dirais que c'est le rôle des alliés va jouer énormément. Avoir des représentations, donc à la fois des personnes LGBTQIA+, mais aussi des personnes hétéros qui vont être de véritables alliés, donc qui vont le faire savoir de par des prises de parole, s'ils sont dirigeantes ou managers dans l'entreprise, donc des prises de parole sur ce sujet, ou un petit autocollant sur l'ordinateur, ou un badge aux couleurs arc-en-ciel, ou voilà, pouvoir rendre visible en fait le fait qu'ils ou elles sont des alliés et que auprès d'elles, auprès d'eux, le salarié peut se sentir en sécurité pour faire ça. Après, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être pleinement épanoui dans son travail en étant dans le placard. Et pourtant, je rencontre toutes les semaines des personnes qui me disent l'inverse, hein, et qui me disent « Non, non, mais vivons heureux, vivons cachés. » Eux-mêmes, en fait, disent « Non, mais ça, c'est la vie privée, ça relève de l'intime, j'ai pas à parler de ça. » Et j'entends ça depuis des années. Mais malgré ça, je n'arrive pas à le croire, en fait. Et je n'arrive pas à... Ils n'ont pas réussi, en tout cas, à me convaincre l'adage « vivons heureux, vivons cachés » au travail pouvait fonctionner. Parce qu'on y passe trop de temps, et il y a trop d'interactions, en fait, sociales avec les collègues, avec le manager, en off, entre deux réunions, le midi à la cantine, en rentrant le soir du bureau pour aller prendre le métro, lors d'une fête de fin d'année, etc. etc. Trop de moments, en fait, où on partage, et heureusement qu'on a ces moments de partage avec ses collègues, ses équipes, ses managers, pour pouvoir rendre humain ce lieu du travail. On l'a vu, hein, pendant le confinement, on était tous chez nous, derrière notre ordinateur, à enchaîner les visios. Qu'est-ce que le monde du travail était triste, en tout cas, c'est ma vision, qu'est-ce qu'il était triste et qu'est-ce qui manquait justement d'humain pour le rendre intéressant et intelligent. Voilà, moi j'ai du mal à croire ça. Après, je respecte évidemment chacune et chacun, je dis pas que c'est facile de faire son coming out. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça sera impossible et qui devront rester cachées et dans le mensonge, parce que c'est une forme de mensonge à soi-même et aux autres. Donc je respecte, parce que je sais comme ça peut être, certaines situations peuvent être difficiles. Moi, ce que j'ai envie en tout cas de dire, c'est il y a des entreprises dans lesquelles vous pouvez être vous-même. Et il y a des entreprises dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir beaucoup plus parce que vous allez pouvoir pleinement partager qui vous êtes. Et ça, alors l'association D'autres Cercles a depuis 10 ans sorti la charte d'engagement LGBT+ de L'Autre Cercle, qui permet aux entreprises, il y en a plus de 300 aujourd'hui qui ont signé cette charte, qui permet de dire voilà, chez nous, si vous venez travailler chez nous, vous saurez que vous allez être dans un environnement safe, dans un environnement inclusif, où il n'y aura pas de place pour ce type de discrimination, ou en tout cas, on va mettre en place un plan d'action suivi et concret pour justement aller vers plus d'inclusion pour les personnes LGBTQIA+. Donc, moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit avoir choisi leur entreprise en regardant cette liste de 300 entreprises et en se disant « moi, je vais aller travailler dans cette entreprise parce que je sais qu'elle est signataire de la charte et que j'ai opéré une transition il y a quelques mois et que j'ai pas envie de me rendre la tâche plus compliquée qu'elle ne l'est. » Et donc là, je trouve une sorte de facilité à pouvoir aller dans un environnement qui va être sécurisant pour moi dans cette période de ma vie.
Je rejoins complètement à retenir, n'hésitez pas à aller regarder les entreprises signataires de la charte de L'Autre Cercle. Parce que quand bien même, évidemment, elles ne vont pas forcément être parfaitement exemplaires, en attendant, elles vont mettre en place et agir concrètement. Donc, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas de la com, c'est vraiment de la transformation et ça avance. Et du coup, tu disais tout à l'heure que vous avez une petite fille, enfin une grande fille maintenant. Et vous l'avez eue quand vous étiez tous les deux déjà en entreprise. Et comment ça s'est passé pour toi, pour Fabien, pour vous?
Déjà, on a partagé avec nos managers, nos équipes, nos collègues, on a partagé ce projet. Donc, comme une naissance classique, j'ai envie de dire, à 3 mois de grossesse, on a annoncé à nos managers, à nos équipes, à nos collègues qu'on allait être papa. Donc on a dû répondre à beaucoup de questions, parfois indiscrètes, parce que l'être humain, là encore, ne voit pas forcément tout de suite la limite de ce qui est de l'ordre privé avec ce qui peut être partagé. Mais on savait que ça faisait partie du jeu, on va dire, et on a fait beaucoup d'éducation finalement sur le sujet, puisqu'il y a très peu d'éducation qui est faite sur le sujet. Un exemple tout très simple, peu de personnes, en tout cas on a rencontré peu de personnes qui savaient que la donneuse d'ovocyte est différente de la femme qui porte l'enfant. La femme qui porte l'enfant n'a pas de lien génétique avec l'enfant dont elle prend soin pendant 9 mois. Et ça, alors on ne nie pas le lien qui se crée évidemment dans le ventre pendant 9 mois, mais c'est quand même une différence notable et on n'a pas rencontré une personne qui le savait. Donc on a aussi beaucoup de bruit par les personnes qui sont contre la GPA. Nous, on défend une sorte de GPA dite éthique qui permet vraiment de respecter chaque personne qui participe à ce projet-là, que ce soit celle qui va donner son ovocyte ou celle qui va porter l'enfant pendant 9 mois. Donc on a fait beaucoup d'éducation et c'était important de passer par là. Et puis d'un point de vue très pratico-pratique, on a dû économiser des congés parce que la loi, alors elle a un peu évolué depuis, en 10 ans, mais le congé second parent n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, en fait, on a dû tout simplement économiser des RTT, des congés, pour pouvoir partir pendant un mois et demi aux États-Unis pour pouvoir être là et assister à la naissance de Jeanne. Et puis ensuite, revenir avec elle quelques semaines après et puis prendre soin d'elle les premiers mois. Donc, ça a été effectivement une organisation un petit peu particulière. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Nos entreprises ont été supportive dans le projet et je me souviens d'ailleurs très bien de ce jour où j'ai emmené Jeanne qui devait avoir 3 ou 4 mois, où je l'ai emmenée en poussette chez JC Deco dans les bureaux. C'était une étape importante pour moi parce que je voyais ces mères faire ça et venir avec leur bébé le présenter un petit peu aux collègues. Et du coup, c'était un moment de grande émotion pour moi que de venir présenter Jeanne à mon équipe, à mes collègues. Et d'ailleurs, ils m'avaient préparé une surprise avec des ballons partout. Et ils avaient énormément gâté Jeanne à cette occasion. Donc voilà, de très bons souvenirs, mais un parcours du combattant tout de même. Voilà.
Merci pour ce partage, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens, parce que quand on parle d'être soi-même au travail, là pour le coup, et Fabien et toi, vous êtes allés encore un cran plus loin en parlant de maternité, de naissance, de bébé. Oui, j'imagine que vous avez répondu à des millions de questions qu'on pose évidemment pas à une femme enceinte. Voilà, ça c'est top. Je vois toute la pédagogie qu'il y a eu à faire derrière aussi, sur des sujets qui sont malgré tout extrêmement décriés encore aujourd'hui. Donc oui, c'est pas simple. Et je vois dans tes yeux, dans la façon dont tu en parles là, toute la lumière que ça génère. Et donc je ne doute pas qu'effectivement, quand on voit ça, entendre pour être heureux, vivons cachés, ça perd complètement de son sens et de son impact, parce que c'est pas complètement vrai, ou en tout cas on le cache sous le tapis, j'ai l'impression. Vraiment. Alors je reviens sur le livre que vous avez co-écrit avec Fabien, parce que finalement ça aussi c'est une naissance, c'est aussi votre bébé à vous, que vous avez axé sur l'entreprise, dans diversité et inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre. Qu'est-ce que tu aimerais ou que vous aimeriez que les dirigeants retiennent en refermant le livre, retiennent et mettent en œuvre ?
Alors, ce livre, il est vraiment là pour donner des clés de compréhension du sujet, Il est très accessible, il n'est pas fait pour un public averti forcément à ces enjeux, mais au contraire, permettre à un manager, à un collègue, à un RH de mieux comprendre en fait les enjeux liés à la diversité et l'inclusion dans le monde de l'entreprise. On est avec Fabien convaincu que l'entreprise a un pouvoir considérable de transformation positive de la société. Dans la société, il y a des règles. Quand on est dans la rue, il y a des règles. Quand on est sur les réseaux sociaux, il y a des règles. On voit parfois les dérives. En entreprise, il y a beaucoup de règles. Et cet espace avec beaucoup de règles et une hiérarchie souvent très établie fait que, eh bien, lorsque l'entreprise décide quelque chose et demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, comme ne pas discriminer par exemple, ou être inclusif dans la manière de recruter, etc., eh bien, ce qu'on observe, c'est que c'est appliqué à tous les étages et tous les niveaux d'entreprise, quelles que soient finalement les convictions personnelles ou religieuses ou d'éducation des uns ou des autres. À un moment, le patron a dit ça, c'est la stratégie de l'entreprise, on fait et on agit et on suit cette stratégie. Donc, finalement, c'est un avantage que l'entreprise ait autant de règles et de rigidité dans son fonctionnement. Ça fait qu'on peut, à mon avis, davantage transformer la société. Bien sûr, il faut des lois, mais l'entreprise fait vraiment un travail complémentaire. Et moi, je trouve que c'est un manque de courage lorsque les entreprises disent « Oui, mais ça, c'est pas notre rôle. Nous, notre job, c'est de faire de la marge et d'enrichir nos actionnaires. » Ben non, en fait, quand on emploie des dizaines de milliers de personnes ou qu'on en emploie 5, notre mission n'est pas que d'enrichir l'actionnaire, notre mission est aussi d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, parce qu'on l'utilise, la société, en embauchant des salariés, on utilise l'être humain, on utilise des matériaux, on utilise du temps, et donc on doit, selon moi, rendre une partie. Et cette partie peut être justement de se dire qu'on a un impact positif sur la société, tout comme on a un impact positif sur l'environnement. Et donc, on fait attention à ce qu'on produit et à la manière dont on produit. Donc, un, je dirais, prendre conscience de ces enjeux. Deux, donner des clés aussi pour agir. Contrairement, justement, je parlais d'environnement il y a quelques instants, ou réduire son empreinte carbone quand on est une industrie, c'était pas forcément très évident. Pour le coup, être une entreprise inclusive, qu'on soit dans l'industrie ou la mode, c'est pas très compliqué. Et c'est souvent du bon sens, et ce sont des actions à mettre en place et une volonté qui, une fois qu'elle est transformée en plan d'action et mise en place dans l'entreprise, fournit des résultats assez rapidement et des résultats assez visibles. Donc, deux, je dirais, donner des clés justement à ses dirigeants, à ses RH, à ses managers, pour pouvoir œuvrer pour une organisation plus inclusive. Et puis, trois, c'est témoigner, outiller, partager des témoignages. Ce livre est rempli de témoignages de clients, de partenaires avec qui on travaille et qui ont justement mis en place des choses et donc qui partagent en fait ce qu'ils ont mis en place. Et puis des chiffres, nous on est convaincus que ce qui ne se mesure pas n'évolue pas. Et c'est pour ça qu'on mène depuis 4 ans un baromètre annuel avec Ipsos BVA, diversité et inclusion en entreprise. Et donc on partage dans ce livre aussi tout un tas d'enseignements et de chiffres très concrets qui permettent justement de rationaliser, d'objectiver le sujet. On ne fait pas ça par philanthropie, on ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça parce que c'est une demande des salariés, parce que c'est un enjeu de performance, parce que plus de 40% des salariés issus d'une diversité ont déjà été victimes d'une discrimination d'entreprise. Enfin voilà, on a ce besoin aussi d'objectiver, et c'est tout ce qu'on partage dans ce livre, notre vision du monde de l'entreprise et de la manière dont elle peut transformer positivement la société.
Waouh, j'adore. J'allais faire un petit récap que tu viens de faire brillamment. Effectivement, tout ça avec en toile de fond l'humain, avec en toile de fond soyez vous-même. Vivre heureux, non, c'est pas forcément vivre caché, bien au contraire, et y compris dans le monde de l'entreprise, et vous le prouvez, vous l'accompagnez. Je retiens aussi que par petits pas, on ne décrète pas un jour ou l'autre, allez, hop, on va être inclusif, On ouvre, on y va, et en sortant les caterpillars, on y va tranquillement, doucement, une marche après l'autre.
Ça.
Et puis, partagez votre vie, vous avez le droit aussi de raconter votre week-end à la machine à café sans forcément vous inventer un week-end, une vie à côté. Alors, il y a évidemment un côté bien-être humain, mais il y a aussi un gros côté facteur de performance et chiffres, comme tu le rappelles. C'est pas juste pour se faire plaisir et parce qu'on vit dans un monde de bisounours. C'est parce qu'en fait, ce monde de bisounours peut créer vraiment de la valeur et de la performance. Tu disais 30% en plus sur une étude qui n'est pas française, mais on va peut-être pas y aller en France, mais en attendant qu'il est quand même très véridique, vous devez avoir aussi plein d'autres chiffres. Je vous invite à aller tous lire le livre Diversité et Inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre. Ça parle pas forcément que d'entreprise, ça parle de vie, ça parle d'humain, ça parle de chacun. Je te laisse la conclusion, Adrien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou que tu aimerais partager ou une question, quelque chose? Je t'en prie, à toi.
Je dirais, il faut passer à l'action. Chacune et chacun d'entre nous, on a le pouvoir de transformer positivement la société dans laquelle on évolue. Et en particulier dans le contexte actuel, qu'il soit politique, économique, qui est quand même assez sombre, utilisons justement ce levier diversité, inclusion, pour aider les autres, pour agir positivement, pour redonner aussi le sourire, redonner de l'espoir. Je pense que c'est un vrai levier d'engagement, donc j'ai envie de dire engagez-vous et passez à l'action.
Merci beaucoup, Adrien. Engagez-vous, joignez l'autre cercle, allez voir ce qu'ils font. Proposez-vous en rôle modèle, en allié. Je sais que pour l'être et pour l'avoir été en entreprise, il y a beaucoup plus d'alliés femmes que d'alliés hommes. Messieurs, n'hésitez pas, allez-y. Et c'est des très très jolis moments à partager. En plus, vous pourriez être surpris de découvrir des très belles personnes et des beaux projets à co-construire. Merci beaucoup, beaucoup, Adrien, pour ton temps, ta sincérité, cette simplicité qui te caractérise et en même temps pour toutes vos actions, Fabien et toi.
Si cet épisode vous a ému, inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queerazio pour un prochain épisode de la Grande Interview.